de suite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet.
Que faire si vous êtes en train de réaliser un film et que vous avez un personnage en animation ? De nos jours, la réponse sera claire, il vous faut du numérique. Soit votre personnage sera guidé à 100% par ordinateur, soit il le sera par le biais de la performance capture. Ce procédé-là, on vous en avait d'ailleurs parlé dans le premier numéro de CineTools, c'est du numérique, mais guidé par la performance d'un comédien. Tout ça c'est très bien, mais comment faisait-on avant l'avènement de l'informatique ? On avait recours à la stop-motion. L'idée est aussi ancienne que le cinéma lui-même. Aux États-Unis, en 1897, les réalisateurs anglo-américains James Stewart Blackton et Albert E. Smith définissent le principe de base de l'animation. Ils filment des jouets dans une position donnée, ils arrêtent ensuite leur caméra, modifient légèrement la position des jouets, par exemple en soulevant un bras. Ils remettent ensuite la caméra en marche et filment le plan suivant. Pour chaque plan, la position des personnages est donc modifiée. Et quand on assemble les plans et qu'on les fait défiler, les personnages donnent l'impression d'être en train de bouger. Voilà ce qu'est la stop motion, l'illusion du mouvement en filmant des personnages qui sont en réalité à l'arrêt. C'est la base de l'animation que l'on retrouve dans le dessin animé. Mais le dessin animé, lui, fait défiler des dessins au lieu de photos successives d'un objet dont la posture est modifiée progressivement. Le procédé intéresse le français Georges Méliès, pionnier du cinéma, qui s'en sert pour inventer toute une gamme d'effets spéciaux. La stop motion se fait aussi avec des personnages en argile. En 1925, Le Monde Perdu de Harry Hoyt montre des dinosaures filmés en stop motion. Ils sont l'œuvre de l'américain Willis O'Brien, qui s'illustrera à nouveau 8 ans plus tard sur le King Kong de Berrian Cooper et Ernest Jodzak. Sur tous les plans où l'on voit le gorille, et pas juste sa main, c'est de la stop motion. Et notamment dans la scène mythique où Kong grimpe au sommet de l'Empire State Building à New York. Élève puis successeur de Willis O'Brien, Ray Harryhausen utilisera lui aussi souvent la stop motion dans des films comme Le Monstre des Temps Perdus en 1953, Jason et les Argonautes en 1963, ou encore Le Choc des Titans en 1981. La stop motion, c'est donc une technique éprouvée, mais vous allez me dire qu'elle a forcément des inconvénients. Le plus évident, c'est qu'elle est très contraignante. Chaque photo correspond à une image et il faut 25 images pour faire une seule seconde de film. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour tourner ne serait-ce que 2 minutes de film. Le deuxième problème, c'est que si la posture de l'objet filmé, par exemple le gorille dans King Kong, est un peu trop modifiée entre deux plans, l'animation devient saccadée. D'où la nécessité de faire de tout petits changements entre chaque plan, ce qui exige une minutie sans faille. Le procédé n'en reste pas moins populaire. Il sert notamment pour certains plans de la toute première trilogie Star Wars et des aventuriers de l'Arche perdue. En Grande-Bretagne, Peter Lord et David Sproxton créent le studio Aardman en 1976, qui se fera ensuite une réputation pour l'animation de personnages en pâte à modeler. Avec l'avènement de l'informatique, la stop motion aurait dû devenir obsolète et être reléguée au musée. Mais elle garde quand même la cote auprès de cinéastes qui ne veulent pas se convertir au 100% numérique. Ainsi, le studio Aardman reste longtemps fidèle à la stop motion, notamment dans les Wallace et Gromit et pour Chicken Run en 2000. Tim Burton aussi est un adepte, en 1993 il avait produit L'étrange Noël de Monsieur Jack en stop motion, et en 2005 il réalise Les Noces Funèbres entièrement en stop motion.
Tomorrow, Victoria, we are to be. Mm. Mm-hmm.
Married.
Entièrement, ou presque, certains plans sont impossibles sans le recours du numérique, notamment ceux qui montrent des groupes de papillons. 7 ans plus tard, en 2012, Tim Burton a de nouveau recours à la stop-motion pour Frankenweenie. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser ? Stop-motion ou numérique ? Le numérique permet de tout faire, de n'avoir aucune limite, mais il a quand même une faiblesse, son rendu est souvent froid. Un problème qui s'atténue avec la performance capture, puisque le personnage numérique est guidé par le talent d'un comédien. Quant à la stop-motion, elle est plus contraignante, plus fastidieuse, mais elle garde un vrai cachet d'authenticité.
C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Gunet, une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h et 15h sur Art District.